Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode dédié à Ashley Madison. Et pour en discuter, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Sébastien Joria.
Bonjour.
Guillaume Lopez.
Bonjour.
Jérôme Seize.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors avant de commencer, je souhaiterais remercier nos nouveaux followers, à savoir Desnos, Pascal Junot, Benes, XOR100111, David, Grégoire Groison, Martine D, Alban Peignet, Alcatux, Robert, Emmanuel Orlando, Nomad91, Frédéric Vella, Mortiane, Aurélien M, Meijin, JL Joannick, Stéphane Adamist, TLK, Philippe, Magasin Sport CH, Serge Carpentier, FR Cecilio, Erwan Jonchet et Sync. Un grand, grand merci également aux personnes qui ont créé un tweet pour annoncer la diffusion, la parution du dernier épisode, donc à savoir Lionel Guillet, Romain, Mickaël Dorigny, FRH, RFH plutôt, et Goff qui a réussi à créer un tweet avec le contexte, le nom des contributeurs et le lien vers le podcast. Donc un grand merci à vous tous, vos feedbacks, vos tweets nous font très très plaisir. Donc Ashley Madison, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il s'est passé ?
Là, je pense qu'il faut préciser que Ashley Madison, c'est un site de rencontres extra-conjugales. Pas forcément très connu en France, parce que je crois pas qu'ils aient fait de pub dans le métro, contrairement à leurs concurrents. Mais c'est vraiment destiné aux gens qui veulent avoir faire des rencontres extra-conjugales. Je crois que de sexe opposé,
ils ont un site spécialisé pour les rencontres même sexe.
Ok. C'est fait pour rire, lui, ou pas ?
Pas encore.
Et donc,
et le code source était peut-être disponible dans le dump, et donc là, c'est peut-être l'occasion de le couvrir un peu plus tard.
Ah, bon. Parce que, bon, on peut quand même dire que cette affaire, ça a été le feuilleton de l'été, ça a duré 2 mois. D'abord, on a appris qu'il s'est fait pirater. Ensuite, il y a un premier dump de 10 gigas qui est sorti avec des comptes et des mots carte bleue. Ensuite, un deuxième dump avec tous les mails du PDG, les codes sources des applications, etc. Et potentiellement, il y a un troisième dump qui pourrait tomber de 300 gigas où il y a tous les chats privés, les photos que les gens ont envoyées, etc. Donc, pour l'instant, on est suspendu au troisième dump. On ne sait pas ce qui va se passer.
Tout le monde attend avec impatience.
D'ailleurs, moi, je me suis toujours demandé comment ces dumps pouvaient être aussi rapidement sur Internet. Enfin, je n'ai pas téléchargé, bien sûr, parce que c'est illégal. Mais enfin, quand tu vas voir sur les trackers, je veux dire, le jour où ça sort, tu connais qu'il y a déjà 50 personnes qui ont signé le dump de 20 gigas à 100%. Donc,
alors, non, le premier dump n'a jamais été disponible à 100%.
C'est le second.
D'accord.
En fait, le premier dump, il est parti très vite. Là, je trouve qu'il s'est changé très rapidement. Enfin, moi aussi, je ne l'ai pas téléchargé. C'est pas légal. Le second, je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de le télécharger et qu'effectivement, c'est resté bloqué pendant un moment à 93%. Comme ça. Et puis finalement, alors il y a même une rumeur qui dit qu'en fait, les personnes qui étaient en train de leaker, ils se sont rendus compte qu'il y avait sans doute des informations qui permettaient de remonter vers eux. Du coup, ils ont arrêté de sider pour pouvoir enlever ces informations.
Exactement.
C'est ce que j'ai entendu aussi.
Alors donc, on ne sait pas d'où vient le leak, en fait, puisque à l'origine, c'était soi-disant Impact Team qui avait piraté.
dont on mentit. Dans les gens Impact Team qui revendiquent, en tout cas.
Ça n'existe pas. Ils n'ont jamais rien fait d'autre dans leur vie. Et là, John McAfee vient de faire un article en expliquant qu'en fait, c'est une ancienne employée de la boîte qui est dégoûtée de tous ces... Parce qu'évidemment, il y a 95% d'hommes sur ce type de site. Et donc, il est dégoûté par le comportement des hommes et qu'il serait parti avec tous les données de la boîte sur une clé USB.
Alors, ce qui est très intéressant dans la piste John McAfee, d'une part, c'est que... Alors, ça, c'est intéressant dans le hack lui-même, c'est que la motivation semblait purement morale, puisque le pirate, on va dire un bad team, pour le coup, n'exigeait pas d'argent, n'exigeait rien, sinon que les sites disparaissent. C'est une première aussi, c'est arrêter de fonctionner ou je leak. Bon, les sites manifestement ne se sont pas arrêtés. Et là-dessus, John McAfee vient dire que c'est une femme. Pourquoi ? Et je pense que ça, c'est la pépite, moi, qui m'a... Ça a fait ma journée, cette lecture. John McAfee a déterminé que c'était une femme parce que les pirates semblent attacher beaucoup d'importance au fait que les hommes mariés sur ce site, pour certains d'entre eux, s'étaient inscrits après le lendemain de la
Saint-Valentin.
Et que, toujours selon la logique McAfeeienne, seule une femme peut attacher autant d'importance à la Saint-Valentin, alors que les hommes l'oublient en général.
Ah, il n'y a pas que ça, il y a aussi dans le wording des messages.
Dans le wording, tout à fait. Scumbag.
Scumbag, voilà. C'est un mot qu'un homme n'emploierait pas pour décrire un autre homme. Seule une femme peut utiliser. Enfin, moi, je ne suis pas assez bien anglais pour savoir, mais il semblerait que seule une femme puisse utiliser ce mot contre un homme.
Donc, en fait, John McAfee a fait un peu son CSI McAfee pour essayer de faire du profiling de pirates et. Déduit que c'est une femme.
Bah, ça peut se tenir, hein, puisque de toute façon, pour avoir accès à ces informations-là, qui de mieux placé que quelqu'un en interne ? Et puis, c'est une raison morale. Enfin, depuis le début, comme je le disais, ce qui est demandé, c'est de fermer le site.
Il n'y a pas de revendication, ni d'argent, ni de. Non, effectivement.
Mais ce qui est marrant, donc, le premier dump, quand il est sorti, donc, je crois que c'est le CEO, là, ou je ne sais plus, qui a dit qu'en fait c'était en folique et que les données qui étaient dedans, c'était complètement.
C'est toujours en folique. Hein. En général, pour les premiers concernés, c'est jamais rien passé et c'est des faux. Et
c'est ce qui a entraîné, du coup, le second dump avec justement les emails de Noël. Pour montrer que finalement, ils avaient pas mal d'informations. D'ailleurs, ce qui est plus intéressant dans les analyses qui sont sorties là récemment, c'est que les gens s'attardent plus sur les emails, finalement, que finalement sur le code source des applications.
Il y a quand même des pépites dans les emails quand il va pirater ses concurrents.
Alors, il n'a pas piraté ses concurrents. Il n'a pas piraté.
Ah, c'est quand même limite. Voilà.
C'est le
j'ai
site.
Trouvé une vulne, mais je ne l'ai j'ai pas, j'ai non, pas piraté.
C'est même plus intéressant parce que c'est le CTO qui est allé voir son CEO en lui disant « Tiens, regarde chez le concurrent, j'ai accès à tout. » Le CEO lui a dit « Vas-y, fonce, prends tout. » Et là, le CTO lui a dit « Non, j'ai envie de pouvoir regarder mes enfants dans les yeux. » C'est beau quand même, c'est beau.
Alors,
il ne l'a pas fait.
Pas piraté,
voilà. Donc ils n'ont pas piraté au final, mais l'intention y était.
Ce qui est intéressant dans le deuxième link avec les emails, c'est la mentalité des gens qui transparaît. Et lorsque il y a des gens qui ont fait une appréciation des risques chez eux, absolument tout le monde leur a dit oui, ce qui est important chez nous, c'est notre logiciel. C'est
donc là, tu parles d'un consultant extérieur qui est allé faire un audit d'évaluation des risques chez HL Manager.
Tout à fait.
D'accord.
Et le consultant, il interviewe les gens et absolument tout le monde pense uniquement à lui-même, à l'argent, à tout ça. Et il n'y en a qu'un seul qui dit ce qui est important, ce qu'il faut protéger, ce sont les données des clients. Et celui qui dit ça, c'est le DSI. Et tous les autres s'en fichent éperdument. Alors que par ailleurs, la communication d'Ashley Madison, elle était complètement orientée sur le fait que faites-nous confiance, avec nous, vos données sont en sécurité. C'était tout le temps la communication du PDG, comme quoi on pouvait tromper sa femme sans aucun risque en utilisant le site.
Il faut dire la vérité quand même. Il y a une donnée qui a été très bien protégée chez Ashley Madison. C'est le mot de passe.
Chiffré avec Bcrypt.
Ça, au moins, ils ont assuré la protection du mot de passe des utilisateurs.
Mais, donc, ni des noms et des prénoms, ni des quatre derniers chiffres des cartes bancaires, ce qui permet à quelqu'un qui disposerait du nom, du prénom et des quatre derniers chiffres d'aller utiliser ces informations sur d'autres services en ligne pour faire une recette de mot de passe. C'est souvent tout ce qui est demandé pour faire une recette de mot de passe.
Enfin, surtout aux États-Unis, parce
surtout
que là-bas, la carte bleue sert en fait de preuve d'identité pour plein de trucs, de preuve d'âge.
Tout à fait.
Et des préférences sexuelles aussi qui ne sont pas protégées. Ça, c'est assez rigolo à lire.
J'allais dire en recette de mot de passe en donnant ses préférences sexuelles. Ça peut être une idée. Hein,
mais c'est vrai. Une
sorte de théorie.
Alors, quid des recommandations ? Qu'est-ce qu'on peut recommander déjà peut-être aux entreprises ?
Normalement, les entreprises ont un joli proxy qui filtre.
Oui, mais le problème, en fait, se pose, par exemple, le DOD a lancé des enquêtes. Le problème se pose par rapport aux gens qui sont habilités ou des choses comme ça, par exemple. Évidemment, en tant qu'entreprise, tu t'en fous. Mais bon, si tu découvres qu'un de tes employés est un pervers sexuel, voire qu'il a rencontré la secrétaire de ton patron sur ce genre de site, est-ce que tu es censé le savoir ou pas ? En tout cas, en Angleterre et aux États-Unis, ils ont commencé à lancer des enquêtes sur toutes les personnes qui étaient habilitées et qui se retrouvaient dans le dump.
Tout en sachant que les adresses email n'étant pas vérifiées, c'est même pas forcément leur adresse email.
Mmh. Oui, ouais, c'est un premier point qu'ils pourraient mettre en place, c'est déjà vérifier l'adresse email. Ça éviterait de se retrouver avec 33 millions de comptes alors qu'on, enfin, ils sont sans doute pas tous actifs ou même.
Non, mais le problème, c'est qu'il est très très facile, puisqu'il n'y a aucune vérification d'adresse électronique, de s'inscrire avec le compte et l'adresse email de quelqu'un d'autre. Uniquement pour.
Ah bah oui, ça bah, pour c'est, pourrir. C'est d'ailleurs comme ça qu'il y a ton compte dans le DAM.
C'est pour ça qu'Hervé est en train de se dédouaner là.
Il envoie des requêtes justement pour qu'on arrête de liquer.
Non, mais faut pas croire qu'en France. Les services adéquats ne s'intéressent pas à toutes les adresses en .gouv.fr, même si on l'a dit au début, c'est pas le site leader en France, et que d'autres ne regardent pas les .cg quelque chose.fr, et j'en passe. Hein. Il y a plein d'adresses professionnelles qui sont utilisées sur ce genre de site.
Et d'ailleurs, alors est-ce qu'on peut prendre pour argent comptant ce qui se trouve dans ce genre de leak? Ah, bien sûr que non.
Quand on aura l'intégralité des chats, je pense que ce sera un peu plus compris.
Oh non, mais là c'est déjà très concret, c'est-à-dire que c'est pas, il y a pu y avoir eu des choses falsifiées, mais c'est pas un fake. Hein.
Bah, c'est difficile, c'est vrai, je pense, de falsifier autant de données. Quoi. C'est,
non,
c'est
tout falsifier, important. Non. En revanche, insérer
des choses. Ah, insérer, tu peux, oui.
Insérer des choses. Ça, c'est génial, c'est un super outil pour faire passer des fausses informations.
Ouais, mais là, c'est compliqué. Oh, enfin, si c'est bien fait, tu peux pas savoir si ça a été ajouté ou pas, quoi.
Bah, la preuve que la dernière fois que ça a été fait, c'était dans les fichiers de Clearstream.
Exactement. Certains
avaient ajouté des choses. Bon, finalement, il a fallu du temps pour le voir. Ça n'était qu'un simple fichier Excel. Tout à fait. Où un rigolo avait rajouté quelques enregistrements.
Exactement, c'est le même principe.
Bon, mais c'est quoi le rationnel de s'inscrire sur ce genre de site avec une adresse en groupe.fr?
Mais je pense qu'il n'y a pas de rationnel. Je pense que le cerveau masculin ne peut être alimenté en sang.
Non, mais c'est vrai.
Disons hein. Qu'il y a une sorte de double alimentation, on va dire. Qu'il y a une, une sorte de race condition pour l'alimentation du cerveau.
Il y a deux aspects. D'abord, le fait d'aller tromper sa femme et de s'inscrire sur ce genre de site, c'est souvent une impulsion. Et Ashley Madison est un site qui est conçu pour attraper ces gens-là. Et donc, leur permet de s'inscrire sans aucune vérification de rien du tout, y compris, bien sûr, aucune vérification d'adresse électronique, de manière à ce qu'ils puissent en profiter immédiatement. Et l'autre truc, c'est que, mais il faut se mettre à la place des gens qui trompent leur femme. Dès l'instant qu'ils en sont là, ce qui leur vient à l'esprit, c'est d'utiliser une adresse électronique qui, en aucun cas, ne pourra être accessible sous aucune forme par leur femme. Donc, ils vont pas utiliser une adresse personnelle où ils utilisent l'accès depuis les tas de périphériques de la maison.
Ouais, mais tu peux avoir plein d'adresses personnelles. Tu peux te créer des adresses spécifiques
personnelles.
T'es pas obligé d'utiliser une adresse pro.
D'abord, une adresse personnelle, elle pourra toujours être obtenable par sa femme dans le cadre d'une procédure de divorce, de choses comme ça, de problèmes. Alors qu'une adresse professionnelle, c'est d'ores et déjà disponible, c'est hyper fiable. Et ça, c'est une adresse dont il est certain qu'en cas de problème, sa femme, de toute façon, elle n'aura jamais accès aux échanges électroniques de son adresse.
Ouais, mais il pourrait avoir
des problèmes. C'est pas sûr.
Non, mais il peut avoir des problèmes avec son employeur. T'imagines si sa boîte mail, elle remplit.
Mais l'employeur. L'employeur autorise une vie privée résiduelle dans l'utilisation de sa messagerie.
Oui, mais il faut que ça soit un usage raisonnable.
Mais là, c'est pas
possible. Si sa femme porte plainte, veut divorcer, tout ça.
Je suis d'accord, c'est un autre problème, ça.
Est-ce que ça serait là le moment de parler de 10 minutes email, par exemple? Vous savez, ce service qui permet en une minute et demie d'avoir une adresse email jetable qui dure simplement 10 minutes, donc permet simplement de le confirmer un abonnement et ensuite qu'il disparaît définitivement.
Tu as plein d'adresses jetables, tu as Yopmail,
Voilà, typiquement.
Mais moi je pense que pour avoir des relations suivies avec des gens au travers d'un site, ça peut être intéressant. Après, on utilise la messagerie du site, et effectivement. Mais bon, après, ça peut être intéressant aussi d'avoir une adresse email qui a duré longue, mais ça peut quand même être une adresse jetable.
Après, il y a deux trucs qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un recours collectif, hein, j'ai vu, Classation en anglais, et il y a deux personnes apparemment qui sont suicidées à cause de la divulgation.
Semblerait que ce soit lié.
Non, mais ce qui est objectif, c'est qu'ils ont fait une mise à prix de 500 000 dollars canadiens sur la tête des hackers.
500 000 dollars américains
canadiens, ça fait 387 000
américains.
Aussi, un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a des comptes, il y a des gens qu'on demandait à faire supprimer leur compte et ils apparaissent quand même dans le dump.
Alors ça, c'est très intéressant.
Ils payaient pour ça, oui.
Parce que les gens, ils ont payé. C'était le business model d'Ashley Madison de faire payer les gens pour que leur compte disparaisse. et Ashley Madison gardait consciencieusement le compte, et tous les comptes qui ont payé pour disparaître ont tous fuité. Mais ça montre bien l'état d'esprit des concepteurs propriétaires d'Ashley Madison.
Bien sûr, on l'a dit déjà, il n'y a pas de vérification d'email, il n'y a pas de suppression des gens qui demandent à être...
pognon sur la misère humaine.
Alors la CNIL a récemment fait plein de mises en demeure sur les sites de rencontres. Est-ce que Ashley Madison était dans la liste?
C'est un site américain, je ne sais pas du coup si ça rentre...
Le fait qu'il soit actif sur le territoire français suffit à ce qu'il soit dans la liste, mais moi je n'ai pas regardé la liste.
Parce que là, clairement, c'est... je ne sais pas ce que dit le contrat de licence utilisateur en général, mais si les comptes ne sont pas supprimés, c'est clairement quelque chose pour lequel tu peux faire un recours.
D'autant plus si tu as payé pour ce service.
Oui, en plus.
J'imagine que c'est pour ça qu'il y a un recours collectif, du coup.
Ça doit tout concerner plutôt les comptes pas effacés.
Il y a aussi une histoire récemment avec la, je crois que c'est la FTC aux États-Unis qui a mis en demeure certaines sociétés américaines parce qu'en fait, ils déclaraient être compatibles Safe Harbor, sauf que c'est purement déclaratif. Et puis, en fait, derrière, ils n'appliquaient pas du tout les principes du Safe Harbor, c'est-à-dire l'exportation de données de citoyens européens dans leurs services est illégale. Donc, comme monnaie, il y a pas mal d'Européens qui sont dans la base de Ashley Madison. Potentiellement, ils sont en porte-à-faux vis-à-vis de cette réglementation. Après, je pense que le recours collectif aux États-Unis a plus de chances d'aboutir qu'une éventuelle procédure européenne. Enfin, voir qu'ils sont, ils sont pas bien là-dessus. Est-ce que le site peut survivre?
Ouais, c'est
la grande question.
Bah, le problème, c'est que les actionnaires survivront toujours. Or, le vrai problème, c'est les actionnaires et les gens qui se sont moqués du monde en disant qu'ils faisaient attention à la sécurité alors qu'ils s'en foutaient éperdument.
Ce que j'ai trouvé d'un cynisme extraordinaire, génialissime, presque, on atteint des sommets, c'est que juste après le hack, Ashley Madison a proposé le service d'effacement des comptes gratuitement. C'était une offre spéciale, on pouvait effacer son compte gratuitement.
En sachant qu'il serait
pas effacé. Voilà.
C'est génial. Ok, donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut recommander? D'utiliser une adresse perso, d'utiliser une adresse jetable,
utiliser une adresse jetable, ne pas évidemment utiliser son nom, son vrai nom, etc. Ouais. Ne pas utiliser, et ça on y pense peu, mais ne pas utiliser une photo, même si elle ne nous montre pas, mais une photo un peu particulière qu'on utiliserait sur d'autres comptes sociaux, où il y aurait notre nom, parce qu'une recherche par image via Google peut nous donner le lien, ramener sur un compte social où là on a notre nom. Donc, utiliser une photo qui n'a strictement rien à voir. En tant que vrai parano, j'irai même encore plus loin, je conseillerais d'utiliser des navigateurs distincts.
Oui, très clairement, là, il faut utiliser des machines virtuelles différentes ou au minimum faire un Firewall, des choses comme ça, pour avoir des environnements distincts. Il faut ne pas utiliser sa carte bancaire. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des cartes bancaires anonymes, ça se trouve sur tout un tas de sites. Il faut utiliser des cartes bancaires. Non, mais
je pense qu'il y a un business. Dès l'instant, on peut monter un OS spécifique bancaire, pour pouvoir tromper sa femme tranquillement.
Mais non, mais le vrai conseil à donner, c'est arrêter de tromper vos femmes au travers de ce genre de site.
Ou alors, prenez un VPN, payez en Bitcoin et ne mettez pas votre photo.
Et puis, de manière plus générale, on peut dire que dès qu'on met des données quelque part, on peut s'attendre à ce que s'il y a une brèche, que ces données soient divulguées. Donc, je pense particulièrement aux sites, par exemple, qui demandent des photocopies de cartes d'identité. Très vigilant avec ça, réfléchir deux fois avant d'envoyer.
N'importe quel site compatible avec l'Argel te demande une vérification.
Oui, mais ils sont compatibles avec l'Argel, donc normalement.
Ils ont un niveau de sécurité.
Il y a un niveau de sécurité qui est.
Il y avait des e-mails qui demandaient des choses dans ce style à une époque.
Ah ben, par exemple, il y a des sites de location.
Ouais, non, mais moi je te parle de site de e-commerce, tu passais ta commande avec ta carte. Et on te demande ensuite ta carte d'identité.
Ta carte d'identité est flaguée sur un risque supérieur. S'il était flagué, il fallait envoyer la copie de carte.
Des comptes des sites de e-commerce français qui existent toujours. Moi, j'ai eu.
Oui, je ne savais même pas.
Il demandait de scanner recto verso ta carte bleue et de l'envoyer.
Mais je comprends pas, vous avez des cartes à risque et on vous demande ce genre de choses à vous?
Je comprends.
Bon, ça ne m'est jamais arrivé.
Moi, je commande pas sur des e-commerce français.
Parce que c'est des cartes qui ne leur appartiennent pas, tu sais.
Non, mais quand ils voient User Agent Linux, ils flaguent la transaction comme suspecte immédiatement.
Enfin, tous les Linuxiens se font passer pour des Windowsiens sur Internet.
Ah, tu sais que les utilisateurs de Windows 10 apparemment se font bannir sur certains sites.
Oui. Hein. C'est un peu leur sujet.
Ouais. Non, mais comme on parlait de Linux 1, Windows 10.
Non, mais on fera un sujet sur Windows 10.
Bon, et bien on espère que cet épisode vous aura intéressé. Un grand merci à Hervé qui nous a reçus ce soir.
Ah non, un grand merci à vous d'avoir répondu positivement à mon invitation.
Et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir.
Au revoir.